Aussi fou que ça puisse paraître, hier soir à Wall Street, on a battu trois records absolus. Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Le tiercé gagnant au plus haut de l'histoire de l'humanité. Et la raison officielle de cette euphorie, c'est bien sûr un accord de paix avec l'Iran. Sauf que il n'y a pas d'accord de paix avec l'Iran. Il y a juste eu une fuite sortie d'Axios pour la xème fois. Il n'y a même pas la signature de Trump. Il n'y a même pas l'accord des Iraniens. Il y a juste une rumeur. Et encore, 24 heures avant cette fameuse rumeur, les Iraniens balançaient des missiles sur le Koweït et l'armée américaine bombardait à tout va. Mais bon, c'est pas grave, le marché, lui, a décidé que la paix était signée, il a sorti champagne, il s'est mis sur son 31 et il est parti danser toute la nuit. Enfin, une bonne partie de la nuit. Et si vous trouvez qu'on marche un peu sur la tête, restez avec moi les prochaines minutes parce qu'on va voir qu'on ne marche pas qu'un peu sur la tête. Là, tout de suite, je dirais qu'il y aurait des raisons d'avoir peur. Mais je vais pas dire du mal, sinon on va me jeter des pierres parce que je suis trop négatif. Bienvenue donc dans ce Morning Bull Live du vendredi 29 mai 2026. Je suis Thomas Veillet et aujourd'hui, on va parler de records absolus construits sur du vent, de Donald Trump qui fait grimper d'ailes de 80% en 3 semaines avec deux phrases bien placées, d'Anthropic qui dépasse OpenAI avec une valorisation à 965 milliards, et surtout on va parler de ce truc invisible qui est en train d'arriver pendant que tout le monde regarde d'ailleurs. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, cloche, pouce bleu, tout le tralala, et puis surtout laissez un commentaire en bas parce que les commentaires c'est ce qui fait vivre la chaîne. C'est parti.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va reprendre calmement parce que ça vaut la peine de reprendre calmement. Hier, à la clôture de Wall Street, on avait le S&P à 7563, plus 0,58%, le Nasdaq à 26917, plus 0,91%, le Dow Jones qui grappillait de justesse un nouveau record et le Russell 2000 dans la foulée, tout le monde au plus haut, tout le monde au sommet. Le Nasdaq, vous savez ce qu'il a fait depuis le 30 mars, plus 32%, 32% en 2 mois. Sur fond de quoi? Eh bien sur fond de guerre régionale au Moyen-Orient, sur fond d'inflation qui repart en flash, sur fond de blocage du détroit le plus stratégique de la planète, sur fond d'une banque centrale qui se demande si elle ne va pas devoir monter les taux, et plus du tout si elle va devoir les baisser, mais sur fond aussi, et ça c'est le point clé, sur fond d'une rumeur qui revient tous les 3 jours et qui dit qu'un accord de paix avec l'Iran est proche, imminent, à portée de main, en finalisation, sur le point d'être signé. Faites le compte, combien de fois on l'a entendu cette phrase depuis fin février? Combien de séances dans le vert estampillées « les marchés saluent les progrès diplomatiques » Combien de fois on nous a vendu le fameux « ça devrait être plié dans les 48 heures » Moi-même, personnellement, tout seul, j'ai arrêté de compter. Hein. Mais si je devais empiler toutes les hausses prises sur le S&P 500 à cause de la paix qui arrive, on aurait un indice qui friserait les 9000 points et la paix mondiale aurait été signée hier matin à 11h. Et on n'a ni l'un ni l'autre. On a la paix qui n'arrive pas et un indice qui monte quand même. Notre métier est merveilleux et on vit une époque formidable dans le monde merveilleux de la finance. Bon alors moi, ce matin, j'ai pris le temps parce que je voulais pas juste râler comme un vieux con devant mon écran, même si techniquement je suis un vieux con devant mon écran. J'ai pris le temps d'essayer de comprendre exactement ce qui était sur la table au niveau géopolitique. Et là, accrochez-vous parce que c'est vraiment savoureux. On ne parle pas d'un accord de paix déjà, on parle d'une prolongation d'un cessez-le-feu déjà existant sur 60 jours. 60 jours. C'est-à-dire en gros, on n'arrête pas la guerre, on prolonge l'abonnement de 2 mois pour voir si on continue ou pas. Comme quand vous prolongez votre essai gratuit sur Netflix pour finir la saison de Stranger Things. Et le meilleur, c'est ça. Dans le cessez-le-feu actuel, il y a des clauses en tout petit caractère qui disent qu'on a parfaitement le droit de se canarder pour autant que les deux parties continuent d'affirmer officiellement que le cessez-le-feu est respecté et est toujours valable. Vous avez bien entendu, on se tire dessus, mais on dit qu'on ne se tire pas dessus, donc on ne se tire pas dessus. C'est le Schrödinger de la guerre moderne. Le missile existe et n'existe pas à la fois, donc le porte-parole n'a pas confirmé sa non-existence. Et alors le but de ces 60 jours, vous savez ce que c'est? Bah c'est ouvrir la discussion. Pas la conclure, juste l'ouvrir. En gros, ça veut dire que là, ils font déjà rien du tout. Donc en gros, dans 60 jours, on recommencera peut-être à parler des vrais sujets. Le nucléaire iranien, par exemple. Les 24 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés aux States, par exemple. Des détails, des bricoles.
Et là, déjà, pour qu'on signe un vrai accord, il faudrait que Téhéran accepte d'abandonner son programme nucléaire, son assurance-vie géopolitique, le seul truc qui fait que personne ne les attaque vraiment depuis 40 ans, en échange d'un bout de papier signé par un type qui change d'avis toutes les 6 heures. Ça paraît évident, ça paraît facile, et ça va se faire dans la semaine, c'est sûr. Et en parallèle, vous savez ce qui se passe? Pendant que les diplomates causent, les gardiens de la révolution tirent sur des navires, la marine américaine bombarde, et Israël fait tout péter au Liban, et le Hezbollah riposte. Et accessoirement, les Iraniens ont balancé un missile balistique en direction du Koweït cette semaine. Non, ne cherchez pas, l'ambiance est vraiment, vraiment idéale pour signer la paix. Alors la question qui tue, c'est pourquoi les marchés montent? Si tout le monde sait que c'est du vent, si tout le monde a lu sous réserve de validation de Trump, si tout le monde sait que Trump met 3 mois à décider s'il prend du sucre dans son café, pourquoi est-ce que ça monte quand même? Ah, tout simplement parce que le marché ne price pas le deal. Le marché, il price l'option sur le deal. Ça change tout, ça change tout, et suivez-moi 2 secondes là-dessus. Imaginez que vous êtes un gérant de fortune, vous gérez l'argent d'autres gens, et vous êtes lucide, vous regardez la situation, vous voyez l'inflation qui repart, la guerre qui dure, les valorisations qui sont dans la stratosphère, et vous vous dites, tout ça, ça va mal se finir. Je vais me mettre short. Vous êtes donc short par lucidité, bravo. Sauf que demain matin, 9h32, ouverture de New York, Trump signe l'accord pour de bon, le bruit s'effondre de 15$, les indices ouvrent avec un gap à la hausse à plus de 3%, le Nasdaq prend 4%, et vous, vous expliquez à vos clients pourquoi vous avez raté la séance de l'année par excès d'intelligence. Vous ne pouvez pas, personne ne le peut d'ailleurs. Alors, tout le monde achète une rumeur à laquelle personne ne croit par pure lâcheté tactique. Et comme tout le monde fait pareil, pour les mêmes raisons, le marché monte, pas parce qu'il y croit, mais parce qu'il a peur de ne pas y croire. C'est ça le mécanisme, c'est du Pavlov institutionnalisé. Vous publiez une headline de désescalade, bam, l'algo salive avant d'avoir fini de lire le communiqué, le chien a appris et le chien, c'est nous. Du coup, l'adage « buy the rumor and sell the news », il a évolué. Aujourd'hui, c'est « buy the rumor again, buy the next rumor forever ». Et le pire, c'est que ça marche. Et puis alors maintenant, dans le même flux d'infos qu'hier, il y avait un chiffre. Un tout petit chiffre de rien du tout. Le PCE est sorti à 3,8% sur une année, le plus haut depuis mai 2023. Le core PCE est sorti à 3,3%, le plus haut depuis novembre 2023. Le CPI est 3,8%, lui aussi. Le PPI à 6%, l'énergie à plus 18% et l'essence à quasiment plus de 30%. Ne cherchez pas, l'inflation est revenue. Elle a sonné à la porte, elle est entrée, elle a posé ses valises, elle s'est installée dans la chambre d'amis. Et à ce rythme-là, dans 3 jours, c'est vous qui êtes dans la chambre d'amis parce qu'elle aura pris la suite parentale. Et le marché, qu'est-ce qu'il en pense, le marché? Hein? Qu'est-ce qu'il en pense, le marché? Eh ben, le marché, il s'en fout! Mais il s'en fout complètement! C'était déjà dans les prix. La phrase magique, celle qu'on sort à chaque fois qu'on ne veut pas regarder un chiffre, c'était déjà dans les prix. Les chiffres mensuels étaient à plus 0,4% au lieu des 0,5% attendus. Donc, on a transformé une accélération annuelle inquiétante en non-événement. Parce que tu vois, là, 0,4 à la place de 0,5, c'est que ça commence à aller mieux. Non, non, ça va pas mieux. Et puis alors, on a le bouquet final dont personne ne parle parce qu'on est trop occupé à regarder la paix tomber du ciel. Le PIB du premier trimestre vient d'être révisé à la baisse de 2% à 1,6%. Croissance qui ralentit, inflation qui accélère. Moi, je connais un mot pour qualifier ça. Ça commence par stag et ça finit par flation. Bon, maintenant, asseyez-vous parce que l'histoire du jour vaut quand même son pesant de lingots d'or. L'histoire commence le 8 mai 2026. Trump est devant les caméras à la Maison Blanche et il lâche cette petite phrase. Cette phrase magique d'une élégance et d'une finesse saisissante. Go out and buy Dell. They are great. Allez acheter du Dell. Ils sont superbes. Voilà, une recommandation d'investissement officielle du président des États-Unis aux 340 millions d'Américains. Pas de disclaimer, pas de « ceci constitue pas un conseil en investissement ». Pas de petit caractère, juste « acheter ». Moi, je fais ça dans ma chronique, j'ai les forces spéciales de la FINMA qui sont parachutées dans mon jardin dans la demi-heure. 19 jours plus tard, 19 jours, le 27 mai, le Pentagone annonce un contrat. Avec Dell, de combien ? 9,7 milliards sur 5 ans. Officiellement, c'est pour gérer les licences Microsoft de l'armée américaine. Officieusement, c'est pour faire monter le titre. Le 28 mai, donc hier soir, Dell publie ses résultats trimestriels et là, on n'est plus dans un bon trimestre. Là, on est dans la science-fiction. 43,8 milliards de chiffre d'affaires, plus 88% sur une année. EPS ajusté à 4,86 contre 2,96 attendu. Les analystes n'étaient pas à côté de la plaque, ils étaient à l'autre bout de la cuisine. Avec des écarts pareils, ils auraient pu faire un profit warning à la hausse. Mais non, bien sûr que non, trop occupés à dealer avec le gouvernement. Les serveurs IA, plus 757% sur un an. Le carnet de commandes IA est à 51 milliards. La guidance est relevée à 167 milliards pour 2027. Bref, le titre prenait 40% en after hours. Plus 40% en une journée, en quelques minutes même, sur une boîte qui pèse déjà plus de 200 milliards. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Le bouquet final, la cerise sur le gâteau à la cerise. Les déclarations de l'Office du Government of Ethics, publiées ce mois-ci, ont révélé un détail amusant. Les comptes d'investissement associés à Donald Trump détenaient des actions d'elle au premier trimestre 2026 et certains de ces achats ont été effectués avant la fameuse déclaration du 8 mai. Évidemment, on nous explique que ces comptes-là sont gérés par des conseillers indépendants, que le président ne dirige rien personnellement. Évidemment, mais évidemment, c'est logique, bien sûr. Tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement clean. C'est juste un magnifique alignement des étoiles et des copains de Donald qui sont placés au bon endroit de l'échiquier politique. Résultat, Dell aura pris plus de 80% en 3 semaines, plus 120 milliards de capitalisation boursière ajoutée. Michael Dell, le patron, sourit. Suzanne Dell, la femme du patron, sourit également. Et les spécialistes de l'éthique, eux, ils hurlent au scandale dans le vide, parce que personne ne les entend. Ouais, le bruit du tiroir case de la Maison Blanche est beaucoup trop fort. Et pendant que Wall Street se faisait dépouiller en silence par le bureau ovale, il s'est passé un autre truc dans l'univers parallèle de l'IA générative. Anthropic, vous connaissez les gars qui font Claude, vient de boucler un tour de table. Pas n'importe quel tour, hein. 65 milliards de dollars. Valorisation 965 milliards. Pour vous donner une idée, à ce niveau-là, Anthropic dépasse OpenAI pour la première fois. Le créateur de Claude vaut plus que le créateur de ChatGPT. C'est la 12e plus grosse capitalisation boursière du S&P 500, juste derrière Berkshire Hathaway et devant Walmart. Et ils sont même pas encore cotés en bourse. Walmart, c'est 10 000 magasins physiques, 2 millions d'employés, 600 milliards de chiffre d'affaires annuel. Anthropic, c'est une intelligence artificielle qui gagne pas encore de fric, mais qui en crame des tonnes. Mais bon, on peut pas comparer, bien sûr. Et puis alors, regardez la courbe de l'ascension. En février 2026, c'était il y a 3 mois, hein, Anthropic valait 380 milliards. En mai, 965, x 3 en 3 mois. Le run rate des revenus est passé de 14 à 47 milliards, et à ce rythme-là, dans 10 ans, ils valent plus que le PIB américain. Surtout que le PIB américain, lui, fait que d'être révisé à la baisse. Et puis alors là, le détail qui tue, Anthropic a flagué Micron, Samsung et SK Hynix comme partenaires stratégiques d'infrastructure. Traduction pour les humains, il leur faut des puces. Beaucoup de puces, beaucoup, beaucoup de puces, surtout de la mémoire. Et c'est pour ça que ce matin, le KOSPI explose de 3% supplémentaire et que le Nikkei prend presque 2%. Et que SK Hynix s'envole, bien sûr. Les puces mémoire, la matière première la plus chiante de l'industrie technologique il y a encore 2 ans, celle dont personne ne voulait, et ben celle qui se vendait au kilo plus ou moins à l'époque, est devenue la nouvelle ruée vers l'or. Mais bon, cette fois c'est différent parce que cette fois, on a l'intelligence artificielle. Cette fois, c'est vrai. Comme à chaque fois. Bon, on arrive à la fin et la question que je me pose à 9h du matin, en regardant l'écran clignoter de vert sur fond de missile, c'est celle-là. Et si toutes ces histoires de deal n'étaient qu'un prétexte? Pas une cause, un prétexte. Et si le marché n'avait pas tant envie de croire à la paix qu'un besoin viscéral de trouver une raison de monter, n'importe laquelle, pour ne pas regarder le reste? L'inflation qui repart, la guerre qui s'enlise, les valorisations qui n'ont jamais entendu parler de la gravité, Trump qui transforme la Maison Blanche en hedge fund personnel. On a déjà vu le film. 2018-2019, guerre commerciale Chine-USA, l'accord est proche, le marché bondit, rien ne se passe, on recommence encore et encore et encore pendant 18 mois. Les pivots de la Fed anticipés 12 fois, arrivés une seule fois. Le sketch du debt ceiling, chaque 2 ans, toujours la même apocalypse jouée à la dernière seconde, toujours résolue à la dernière seconde. À chaque fois, la même chose. Un marché qui s'accroche à une promesse parce que la promesse est plus confortable que la réalité. En bourse, le déni, c'est pas un bug. Hein. En ce moment, c'est une fonction. Alors maintenant, je vais pas vous dire que ça va s'effondrer demain. Je suis pas Michael Burry. Je ne joue pas les Cassandres. Personne ne sait quand ça va craquer. Et celui qui vous dit le contraire vous vend quelque chose. Mais un marché qui a besoin d'inventer des raisons de monter, c'est un marché qui ne veut pas regarder ce qui le menace. Un jour, pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, la rumeur ne suffira plus. Soit le deal arrive vraiment et tout le monde réalisera qu'il était déjà dans les cours au moins 10 fois, C'est de news, enfin, et ça baissera un peu, soit la guerre s'aggrave pour de bon, et là, le réveil sera brutal, parce que tout le monde dormait du même côté du lit, tout le monde était positionné pareil, et tout le monde pariait sur l'espoir. Le danger en bourse, il n'est jamais dans le pessimisme bruyant, il est dans l'optimisme silencieux et unanime. Quand plus personne ne se pose de questions, quand plus personne ne pose la question, c'est précisément à cet instant qu'il faut peut-être la poser. Alors, moi je vais la poser tranquillement, en regardant l'écran clignoter en vert sur fond de tir de missile. On fait quoi là exactement? On investit ou on se raconte une histoire pour s'endormir paisiblement et se rassurer? Il y a 48 heures, les gars se tiraient encore dessus au Moyen-Orient et ça ressemblait pas franchement à des types qui cherchent un accord. Mais bon, le marché, lui, il a déjà signé la paix, il a même déjà acheté le champagne. Profitez du week-end pour faire autre chose que regarder les écrans. En attendant, on s'abonne à la chaîne Swissquote en français, on like, on commente, on partage, on active la cloche et on stimule l'algorithme. Moi, je vous retrouve demain pour le Swiss Bliss et pour ceux qui ne veulent pas parler de boulot pendant le week-end, eh bien, on se voit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.